Vous avez la parole, monsieur le professeur.
Merci, bonjour. Merci de m'avoir invité à participer à ce symposium et de m'adresser donc à ce public franco-allemand pour traiter ce thème. Il s'agit des systèmes de santé et on va donc remonter un petit peu l'échelle, c'est-à-dire ce ne sont pas seulement les mesures pour assurer la sécurité de la population, mais l'ensemble des systèmes de santé, par conséquent, la nécessité donc de les financer, comment assurer les prestations dans les services de santé. D'emblée, je vais vous dire que je vous présente des transparents en anglais, mais je parle en allemand. Enfin, j'espère que ça servira quand même à titre donc, de soutien d'avoir ces présentations quand même en anglais. Je voulais donc aborder 5 chapitres. D'abord, le contraste que l'on présente très fréquemment entre deux formes fondamentales de système de santé, à savoir le système de Bismarck et le système donc de caisse d'assurance maladie que l'on a en France, en Allemagne, et le système appelé système de Beveridge, c'est-à-dire système financé par la fiscalité. C'est très typique de la Grande-Bretagne. Alors, essayez de voir si ces systèmes, entre-temps, n'ont pas évolué de telle sorte que, pour ainsi dire, les descendants de Bismarck et de Beveridge maintenant se ressemblent fortement. Deuxième chapitre, le financement des systèmes de santé. Et là, il s'agit de voir aussi donc ces différences que l'on décrit très fréquemment entre les pays existent encore, ou si l'on peut parler peut-être même d'un système européen maintenant, un système européen qui se distinguerait du reste du monde. Troisièmement, j'en viendrai également en ce qui concerne l'accès aux soins de santé et leur qualité. Là, évidemment, la question de la sécurité intervient aussi. Quatrièmement, comment est-ce que l'on peut comparer les prestations fournies, les coûts et le remboursement? Et cinquièmement, une partie décisive, à savoir ce débat qui vise à voir qu'est-ce que ces systèmes apportent, non seulement pour la santé de la population, mais aussi pour une évolution économique globale des pays concernés. Car on verra que ces soins de santé n'ont pas seulement un caractère de consommation, mais aussi d'investissement. On peut comparer, par exemple, aux dépenses de formation, d'éducation. Alors, premier point. Si nous faisons l'analyse des systèmes de santé, il y a vraiment une complexité de ces systèmes. Pourtant, on peut essayer d'élaborer un modèle simple pour pouvoir aborder les questions fondamentales. Et nous faisons cela en laissant de côté les différences qui peuvent apparaître dans le détail dans ces systèmes et en prenant un modèle générique où l'on voit apparaître d'abord les principaux acteurs, d'un côté donc la population, de l'autre côté les prestataires de services. Et les prestataires, qui sait, ce sont les médecins, les établissements hospitaliers, les pharmacies, etc. Et au sein de la population, bien sûr, nous avons aussi des acteurs individuels qui tombent mal de manière aiguë ou chronique et qui vont prendre contact avec les prestataires. Et dans un système de santé, il y a une chose que l'on appelle le principe du tiers payant. C'est-à-dire, c'est un tiers qui intervient. C'est pas toujours facile à traduire vers l'allemand, dit l'orateur. C'est un intermédiaire qui intervient ici, donc, qui va donc gérer les flux financiers entre la population et le prestataire de services. Et d'ailleurs, si on fait une analyse plus précise, on constate qu'il faut même mieux faire encore une distinction et voir d'abord quelqu'un qui collecte les ressources, qui collecte les cotisations et une partie qui paye ensuite. Bon, c'est différent. En Allemagne, c'est très difficile parce que nous sommes l'exception à la règle et nos caisses d'assurance maladie sont à la fois collecteurs des fonds et ensuite payent les prestataires. Et j'ai un petit peu de mal à expliquer. En général, il faut dire que c'est une exception. Dans les autres pays, les deux rôles souvent sont séparés. Alors, on peut utiliser ce modèle du triangle pour définir les principales fonctions qui existent dans le système de santé. Alors, autour de ce triangle, vous avez premièrement la fonction d'assurance, c'est-à-dire la population qui, en cas de besoin, pourra donc avoir accès à ces prestations. Donc, il y a une assurance. Et c'est une assurance qui donc sert non seulement au sens restreint de caisse d'assurance maladie, mais au sens le plus large aussi de couverture des risques de la maladie, par exemple dans les systèmes financés par la fiscalité. Et là, nous avons donc une protection universelle. La question de savoir, est-ce que nous avons donc protection universelle de la population ou bien est-ce qu'il y a certaines parties de la population qui restent de côté et en même temps, donc, quel est le volume, l'importance de la couverture, qu'est-ce qui est couvert ou non et quel est le cas échéant la proportion des prestation qui est couverte par l'assurance ou est-ce qu'il y a, par exemple, donc une part propre qui reste à l'assuré, c'est-à-dire donc est-ce qu'il y a une sorte de ticket modérateur. Ensuite, vous avez une autre fonction, à savoir la mobilisation des ressources pour le financement du système. Et là, il y a différentes sources de financement, que ce soit les cotisations des assurances sociales, que ce soit les impôts, que ce soit des assurances privées. Nous avons une question ensuite très importante, donc l'ensemble des ressources. Et la question est de savoir si l'ensemble des personnes qui contribuent à ce financement se trouvent ensuite regroupées à l'échelon national, c'est-à-dire est-ce qu'on met tout dans le même panier pour ensuite redistribuer en fonction des besoins ou bien est-ce que l'on aurait au contraire plusieurs petits paniers, pourrait-on dire. Il y a l'exemple, par exemple, de Singapour où vous avez des comptes d'épargne et où l'État oblige le citoyen à payer, mais chacun a son propre compte d'épargne pour couvrir ensuite donc, les dépenses de santé. D'un autre côté, vous avez par exemple le regroupement des fonds à l'échelon national. Et là, c'est quelque chose qui a été mécompris aussi en Allemagne lorsque l'on a fait des réformes il y a 10 ans. Avant, justement, l'ensemble des fonds se trouvait rassemblé à l'échelon de la caisse locale d'assurance maladie. Et il n'y avait plus donc ce comportement solidaire entre les différentes caisses. Alors, ensuite, la redistribution, la répartition, comment est-ce que l'argent va être redistribué vers les différentes caisses, vers les différents offices. Là, ce sont des débats très importants qui sont menés dans tous les pays. En Allemagne, nous sommes en train justement de rediscuter pour savoir si on doit changer la formule qui permet d'attribuer cet argent aux caisses d'assurance maladie. Enfin, c'est toute la transformation du système qui est en question. De l'autre côté du triangle, nous avons ensuite donc la façon dont les prestataires vont être rémunérés. Alors, ça se fait de manière traditionnelle par des honoraires, il y a même maintenant des termes qui ont été introduits, par exemple « purchasing », l'achat de certaines prestations. Et tout en bas, vous avez ensuite l'accès aux prestataires de services et le fait, la véritable prestation. Et puis, au milieu, nous avons quelque chose que l'OMS appelle « steward », mais cela prête à confusion. C'est pas le steward, c'est pas donc comme l'hôtesse de l'air qui distribue des jus de fruits dans l'avion, non. Il s'agit de savoir qui va définir les différentes fonctions, les différentes missions entre les différents acteurs. Et ça, ça peut être le Parlement, le ministère de la Santé. Mais ça, c'est une tâche essentielle de l'État, tandis que les autres acteurs ne sont pas des acteurs étatiques. Maintenant, comment se distinguent les différents pays, par exemple le modèle Bismarck et le modèle Beveridge? Eh bien, la question dont les fonds sont collectés et qui sont les payeurs, là, il y a des différences. Dans les pays qui ont des cotisations pour les caisses d'assurance maladie et qui ont des cotisants, eh bien, on parle du système Bismarck. Tandis que si c'est financé par la fiscalité et si l'on a des autorités locales de santé, on parle d'un système national de santé sur le mode Beveridge, NHS. Et il n'y a pas seulement cette combinaison. Entre-temps, il y a des modèles mixtes, comme en Israël. Là, la population paye des impôts. Les impôts sont redistribués ensuite aux caisses d'assurance maladie selon une certaine formule. Donc, il y a vraiment des formes maintenant mixtes. Ce ne sont pas seulement ces deux grandes catégories qui existent. Mais bon, Bismarck et Beveridge. Commençons par Beveridge. Parce que dans les pays, disons, sur le modèle Beveridge, il y a eu des évolutions très importantes au cours des dernières années. Bon, ça, c'était donc d'abord la Grande-Bretagne dans les années 90 encore. Alors, vous aviez à peu près ce modèle-là, c'est-à-dire la population qui paye donc les impôts à l'État. Les autorités nationales, ont trois rôles à jouer, c'est-à-dire ils sont payeurs, ils sont prestataires de services et en plus, ils sont régulateurs. Donc, ils ont toutes les fonctions au sein de ce service national. Les ressources sont ensuite distribuées aux hôpitaux et souvent, donc, les malades n'ont pas le choix à ce moment-là de savoir où est-ce qu'ils vont aller. Les médecins et les infirmières ne sont pas donc des salariés de l'hôpital, mais ils sont salariés du service national. Et c'était très contre-productif car les patients, par exemple, qui n'auraient pas voulu aller dans leur propre hôpital régional, eh bien, ça ne marchait pas, puisque c'était l'hôpital donné qui avait reçu donc sa part, et donc l'hôpital d'à côté n'avait pas envie d'avoir un patient de plus. Donc, après coup, ce n'était pas donc une bonne incitation à fournir une bonne prestation. C'est la raison pour laquelle on a eu l'idée de mettre en place ce que l'on a appelé cette division entre achat et prestataire. C'est-à-dire, ça se fait donc en Grande-Bretagne, en Suède, en Espagne, dans d'autres pays. D'ailleurs, en Grande-Bretagne, ils n'étaient même pas les premiers à le faire, mais comme on lit plutôt la littérature spécialisée anglaise qu'espagnole, on a pensé que l'invention venait de l'Angleterre. Mais en fait, ce sont les Espagnols qui ont changé les premiers. Alors, là, c'est un débat qu'on n'arrive pas bien à comprendre en France ou en Allemagne. On ne comprend pas les discussions, puisque nous, ça existait toujours. Il y a toujours chez nous, donc, la séparation entre les caisses d'assurance maladie et les prestataires. Mais ici, Donc, vous avez donc les deux parties qui font partie du système étatique, mais au sein de ce système de l'État, on a maintenant donc passé des contrats. Et par exemple, lorsque les hôpitaux, par exemple, n'ont pas d'emblée une certaine somme attribuée, mais sont payés par le biais de contrats pour le traitement de certains patients, à ce moment-là, les hôpitaux ont besoin d'avoir une certaine clientèle, en quelque sorte. Ils ont besoin d'être autonomes. Donc, le caractère autonome des établissements hospitaliers, c'est une grande discussion. Ça veut dire que l'hôpital a besoin de management, de personnel qui soit plus fonctionnaire pratiquement de l'État, des services de l'État, mais salarié de l'hôpital, puisque l'hôpital reçoit donc ces sommes, ces financements. Donc ça, c'est toute une réorganisation qui se met en place. L'idée, c'est qu'à ce moment-là, le patient ait donc plus de choix en ce qui concerne l'accès aux prestations. Et l'argent est fourni pour fournir certaines prestations. Ensuite, le changement important qui est intervenu, bon, il faut voir qu'on avait encore deux tâches, donc au service national, payeur et régulateur. La tendance suivante qui intervient dans ces pays maintenant, c'est un déplacement. La fonction de payeur ne sera plus confiée à une autorité nationale, mais à une autorité régionale. L'autorité nationale n'ayant plus qu'un rôle de pilotage, de coordination. Et dans tous ces pays, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Danemark et autres, on voit partout la même chose. Ce sont donc maintenant ces offices régionaux qui sont les offices payeurs. Alors, évidemment, il y a toute une discussion maintenant en ce qui concerne la répartition des fonds aux régions. Laissons cela de côté. Et maintenant, dans les pays où ce n'est pas encore le cas, vous avez, au bout de quelques années, les gouvernements, les instances régionales qui prennent l'habitude de passer des contrats et qui disent, par exemple, on peut très bien avoir passé des contrats avec des prestataires de services privés. Pourquoi le faire seulement avec des prestataires de services de l'État? Alors, là, si l'on regarde donc ces systèmes dits systèmes nationaux, systèmes d'État, maintenant, on a entre-temps donc cette séparation entre les différentes fonctions, le payeur, le prestataire de services, le régulateur. Et si l'on compare maintenant avec les caisses d'assurance maladie, telles qu'elles existent donc maintenant en France, en Allemagne, eh bien, on voit qu'il y a maintenant quand même une grande similitude. Simplement, la fonction de payeur est confié chez nous aux caisses d'assurance maladie et dans ces pays donc aux offices régionaux. Et d'un côté, on a donc une source de financement par l'impôt, de l'autre côté, les cotisations. Mais sinon, nous aussi, nous avons donc des établissements hospitaliers qui peuvent être publics, mais qui sont quand même autonomes, indépendants par rapport aux caisses d'assurance maladie. Et donc, on commence à régler les choses de manière similaire, qu'on le fasse avec des caisses d'assurance maladie ou avec des autorités régionales. Fondamentalement, ce sont à peu près les mêmes systèmes, enfin, les mêmes fonctions. Donc, ma première conclusion, c'est que les descendants de Bismarck et de Beveridge se ressemblent fortement à l'heure actuelle. On a maintenant une similitude de structure avec donc les mêmes tâches de réglementation dans les différents systèmes. Deuxième observation, restons-en à ce triangle et réfléchissons pour voir qu'est-ce qu'il y a à financer. On a une possibilité pour le financement. D'abord, c'est l'impôt. Là, les impôts seront donc versés d'avance. On peut au contraire avoir des cotisations d'assurance maladie qui donc proviennent aussi de la population. Nous avons aussi des assurances volontaires ou assurances privées qui sont payées aussi d'avance. Et la dernière possibilité pour avoir des prestations de services, c'est de payer directement, donc de la main à la main, de payer directement aux prestataires. Il n'y a pas d'autre possibilité de financement, à moins que l'on dise, par exemple, qu'il y a certains pays qui bénéficient de l'aide d'autres pays. Mais bon, dans les modèles classiques, c'est comme cela. Et si l'on prend donc l'ensemble des pays de l'Union européenne, eh bien, on voit que certains ont plus de part de fiscalité, d'autres ont plus une plus grande part de cotisation. Mais globalement, si l'on regarde l'ensemble des pays de l'Union européenne, on voit 75% de ces pays qui où l'on paye par des cotisations aux caisses d'assurance maladie. Avec donc certaines variations, il y a l'assurance volontaire 5% et donc ce que j'ai appelé out of pocket 18%. Et si l'on regarde maintenant les autres pays, donc les nouveaux pays maintenant, les nouveaux arrivants dans l'Union européenne, vous voyez que ça ne varie pas beaucoup. Bon, il y a l'assurance volontaire qui joue un rôle plus important. Qui est encore plus réduite. Les proportions sont à peu près les mêmes. Alors, la différence, c'est que vous avez donc une assurance volontaire de 37% dans les pays donc qui ne font pas partie de l'Union européenne. Là, vous avez ces différences. 37% donc pour l'assurance volontaire, 45% seulement donc le financement public. Vous voyez les chiffres, ça c'est très différent. Si j'ajoute maintenant l'ancienne Union soviétique, là, vous avez par exemple une partie publique comme aux USA, c'est-à-dire 46%. Mais vous avez par exemple donc le paiement direct qui est de 50%. Et là, ça veut dire que ce sont les malades qui doivent assurer le financement. Ce ne sont pas donc, ce n'est pas financé par la fiscalité, par l'ensemble de la population. Prenons les pays maintenant du sud-est asiatique. Alors, vous voyez respectivement 53%, mais 40% aussi de paiement direct. Et puis le reste du continent américain, sans les USA, hors USA, là, part publique un peu plus élevée, mais également donc une part privée très élevée. Bon, ça veut dire qu'au sein de l'Union européenne, et pas seulement dans les anciens pays membres, mais aussi dans les nouveaux pays membres de l'Union européenne. Donc, de manière globale, on peut dire que tous ces pays sont très similaires. Les nouveaux pays de l'Union européenne, par exemple, ressemblent bien plus aux anciens membres de l'Union européenne qu'à l'Union soviétique, par exemple. Donc, c'est un système européen de financement de la santé, pourrait-on dire. Et si l'on regarde maintenant la part du produit intérieur brut, là, il y a les 27, ce sont les 27 pays membres de l'Union européenne actuels, donc maintenant. Alors, en rouge, vous avez les 15, tout en haut, l'Allemagne, avec 10,7% du produit intérieur brut, juste en dessous, la France, et puis ensuite les autres pays de l'Union européenne, les 12 nouveaux pays membres qui sont très proches, bien que les valeurs soient un peu moins élevées. Et maintenant, comparaison globale, les autres régions à travers le monde, vous voyez les USA ici, tout en haut, 16% entre-temps. Et vous voyez les autres régions du monde avec des valeurs moins élevées, et non seulement moins élevées en moyenne, mais aussi ce qu'il faut indiquer, c'est qu'il y a une très grande hétérogénéité. C'est-à-dire, la plupart des régions n'ont pas de système de financement homogène des soins de santé. Vous avez une dispersion très importante, au contraire, si l'on regarde Pacifique Ouest, les pays riverains, eh bien, il y en a qui dépensent 3% du produit intérieur brut et d'autres beaucoup plus. Donc, je veux dire des disparités régionales très importantes. Là, donc, on peut également faire une observation. Et laissons de côté la question de savoir si le financement se fait par des cotisations aux assurances sociales ou par la fiscalité. Mais en tout cas, en ce qui concerne le montant, enfin le montant des financements et la répartition entre public et privé, on peut dire que l'on a donc un modèle européen en quelque sorte. Alors nous avons plus de similitudes que de divergences au sein de l'Europe, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Troisième sujet. Et là, je vous devrais montrer un autre graphique. Il s'agit maintenant donc de la production de santé. Comment est-ce que l'on fait? Je reviens sur ce qu'a dit l'orateur précédent. Comment faire pour que les systèmes de santé soient sûrs, d'une part, mais aussi efficaces? Il ne s'agit pas d'avoir des systèmes de santé pour donner à tout prix donc un emploi aux infirmières et aux médecins. Non, c'est pour obtenir la santé, pour avoir... produire de la santé. Et donc, vous avez ici représenté en gris le système de santé avec l'input, les patients, les structures et l'organisation du système, les établissements hospitaliers, les infirmières, les médecins, les appareils pour les rayons X, que sais-je. Et tout cela est... intégré dans un cadre plus large, car nous savons qu'il y a d'autres domaines de la société, l'environnement, la nutrition, etc., qui jouent également un rôle sur le résultat final en termes de santé. Et nous avons ensuite donc également donc les ressources humaines, l'état actuel de la santé de la population, etc. Il ne faut pas faire une erreur. Il ne faut pas donc... il faut voir exactement qui a accès aux soins de santé. Ça ne veut pas dire automatiquement le patient. Il faut voir qui a accès. Qui sont ceux qui apparaissent dans le système de santé, qui demandent certaines prestations? Eh bien, est-ce que ce sont ceux qui en ont le plus besoin ou bien est-ce que ce sont ceux qui peuvent payer le plus? Le financement du système de santé, est-ce qu'il est équitable dans le sens où ceux qui ont davantage de revenus contribuent aussi davantage? Et est-ce que c'est un système durable? Est-ce qu'il n'y a pas de déficit chronique à la longue? Est-ce que les structures, les technologies que nous utilisons, les ressources humaines, le personnel soignant, est-ce qu'ils sont bien formés? Est-ce que les institutions donc sont à des normes très élevées, par exemple en ce qui concerne, on disait, la sécurité sanitaire? Est-ce que l'on a vraiment donc des mesures qui apportent véritablement l'amélioration de la santé escomptée? Est-ce que les processus... Parce que bon, ce sont des questions. D'abord, est-ce que les technologies sont efficaces, par exemple? Et par exemple, les médicaments homologués, les médicaments autorisés, est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Mais en plus, est-ce qu'ils sont donnés aux bons patients après? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une question donc d'adéquation. Et puis, est-ce que nous voyons alors des résultats de très bonne qualité ou y a-t-il des complications très importantes? Et puis, qu'est-ce qui sort à la fin, finalement? Ce sont là les questions générales qui se posent dans tous les pays dès lors qu'il s'agit d'analyser les systèmes de santé. Et là, nous avons en fait les mêmes réponses, des réponses très similaires. Par exemple, la première question, accès au système de santé. Tout le monde dit nous avons besoin d'une protection universelle et la France est un très bon exemple. En 2000, on a vraiment maintenant admis toutes les personnes, y compris les personnes qui étaient exclues auparavant des soins de santé. En Allemagne, on vient juste de le faire, juste maintenant. Donc, protection universelle par une assurance maladie. C'est quand même étonnant d'avoir attendu 125 ans depuis l'instauration des caisses d'assurance maladie. C'est seulement maintenant que nous avons donc cette conception selon laquelle tout le monde, chacun, tout un chacun, donc doit avoir une protection contre la maladie. Alors, après cela, vous voyez donc ici en jaune l'agrément des médecins, donc l'évaluation des technologies de santé, donc par exemple l'homologation des médicaments et la concentration des services, parce que nous savons par exemple qu'un chirurgien qui a fait X fois la même opération aura une meilleure performance, une meilleure prestation, donc il faut avoir cette concentration. Alors qu'on a besoin d'avoir des chiffres pour savoir, par exemple, il y a des centres de transplantation, par exemple, qui font seulement des transplantations deux fois par an. Si nous le savions, nous, en tant que citoyens, on n'irait certainement pas dans cet hôpital-là. Donc, ce sont des chiffres qui doivent être publiés. Et puis, les process, donc, il faut améliorer les choses, comme on dit en anglais, do the right thing, faire ce qu'il faut, et avoir une bonne imputation des prestations. Ce sont des programmes de gestion, de management. Il faut dire quel est le patient qui aura telle ou telle prestation dans tel ou tel cas, etc. Et puis l'inverse, comme on dit en anglais, do the thing right. Faire les choses de manière convenable, et à ce moment-là, on a le benchmarking, l'évaluation, essayer d'évaluation d'hôpitaux. Tout ça, c'est très difficile au plan méthodologique, mais cela montre les perspectives de développement des systèmes de santé. Et là aussi, nous pouvons observer encore une chose. Donc, les défis auxquels on est confronté en Europe sont les mêmes, sont très similaires. Et il y a, par exemple, l'Observatoire européen, dont je suis l'un des directeurs. Grâce à ces observatoires, nous pouvons préparer donc des réponses pour les politiques. Et donc, le rythme s'accélère. Par exemple, un pays lance un programme de gestion des maladies. L'année suivante, les autres pays suivent, etc. Et le rythme s'accélère. Et on reprend donc de plus en plus les réponses. Ce ne sont pas toujours des réponses totalement semblables, mais sur le plan systématique, donc ça va toujours dans le même sens. Ceci nous amène à nous demander à l'échelon micro. Il y a par exemple un projet qui vient de se terminer. Nous avons fait une analyse en nous rendant dans les établissements hospitaliers en Europe, dans 9 pays, et on s'est demandé, bon, qu'est-ce qu'ils font? Ici, donc, c'est une opération de la hanche. Et là, la question est de savoir, est-ce que les pays sont différents? Est-ce que l'on fait une opération différemment en France et en Allemagne? Et est-ce qu'il va y avoir une dispersion sur toute l'Europe? Et là, vous voyez donc en X les coûts moyens. Donc, nous avons fait un profil du patient. Les patients ont tous la même pathologie. Et ensuite, la question était de savoir comment on les traitait et quels étaient les coûts de traitement. Voilà. Et vous avez donc le remboursement, par exemple, pour les hôpitaux. Alors, et l'on voit les points. Tous les points représentent donc toujours un hôpital d'un pays. Et prenez la France, par exemple, les croix. Ici, ce sont différents hôpitaux français. Au-dessus, différents hôpitaux en Allemagne. Et puis après, vous avez les hôpitaux hollandais. Ça peut varier entre 4 000 et 9 000 euros. Donc, vous avez une dispersion vraiment totale. Et on ne peut pas dire que tous les hôpitaux italiens sont pareils et tous les hôpitaux allemands sont pareils, mais la même chose donc en cas d'attaque d'apoplexie. Là aussi, on voit une dispersion énorme en ce qui concerne le traitement, les soins donnés. Il n'y a pas donc une voie unique dans un pays donné. Et si on regarde de très près, On voit qu'il, certes qu'il y a des différences dans les technologies appliquées, mais ça varie plus d'un pays à l'autre, au sein d'un même pays que d'un pays à l'autre. Alors quand les politiques viennent dire nos systèmes de santé se distinguent complètement et nous avons besoin d'un système forfaitaire en France ou d'un système forfaitaire pour l'Allemagne, etc. Et quand on va dans les hôpitaux, on voit que ce n'est pas vrai du tout. On peut pas dire les établissements hospitaliers d'Allemagne ne se ressemblent pas plus, il n'y a pas plus de ressemblance au sein de l'Allemagne que par exemple entre la France et l'Allemagne. Et donc on ne peut pas définir ici de modèle unique. Alors, la question est de savoir qu'est-ce que ça nous apporte, ces systèmes de santé. Et en contradiction un petit peu avec l'orateur précédent, je voudrais dire que nous avons donc une longévité qui va vraiment en augmentant. On ne sommes pas de plus en plus malades. Au contraire, nous vivons de plus en plus longtemps. Ça, c'est vraiment le chapitre suivant à aborder en ce qui concerne les défis. Justement, nous vivons longtemps parce que nous sommes en meilleure santé. Et donc, la longévité a augmenté et la question est de savoir quelle est la part des systèmes de santé dans tout ça et quels sont les autres effets. Et il y a une méthode pour pouvoir avoir une certaine approche ici. Alors, il s'agit de prendre les causes de mortalité ici et de rechercher les causes de mortalité qui seraient influençables sur le plan médical. C'est-à-dire, on dirait, avec un excellent système de santé, ça ne devrait pas être. Par exemple, une personne qui est diabétique et qui meurt à moins de 65 ans, ça ne peut pas se faire. Ça ne devrait pas se faire. Avec un bon approvisionnement, des bons soins de santé, la personne ne doit pas mourir. Et vous comprenez par analogie ce que je veux dire avec d'autres maladies. C'est-à-dire que nous faisons la distinction entre les causes de décès. On regarde qu'est-ce que pourrait faire la médecine. Est-ce que là où la médecine aurait pu faire quelque chose et là où la médecine ne peut rien faire. Et si l'on regarde donc les différents pays, et par exemple dans les années 50, eh bien là, vous aviez par exemple 20% de maladies évitables. 10 années plus tard, ce sont que 10%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc les causes de décès qui sont évitables donc baissent. Ça semble vouloir dire que l'approvisionnement en soins, que les soins médicaux ont eu une influence entre-temps, donc que ça a eu un effet, que ça permet justement un recul des décès. Et on l'observe en fait après dans les pays, tandis que les autres catégories de mortalité ne reculent que de 0, quelque chose. Et quand on établit le rapport, eh bien, on voit dans ces pays, donc l'Angleterre, la France, etc., vous voyez la proportion de recul des décès donc, qui seraient influençables, c'est de 40-50% finalement. Donc, je veux dire par là que l'on a tendance à penser parfois les soins de santé, ça n'a aucune influence sur la longévité. Ce n'est pas vrai, au contraire. On voit, ce n'est peut-être pas une majorité, mais c'est une très forte proportion. Alors, ceci nous amène à nous demander, est-ce que l'on a un trop peu de soins de santé à ce moment-là? En Allemagne, en France, on a toujours tendance à dire on dépense trop, on en fait trop. Mais au contraire, posons-nous la question, est-ce que l'on fait trop peu? Puisque l'on peut donc être productif. De même que les écoles sont importantes pour la formation, de même que nous avons besoin d'une bonne formation, d'une bonne éducation en tant que pays industrialisé, nous avons besoin aussi donc de bons soins de santé pour avoir une population productive. Et ça, c'est en fait d'ailleurs un débat qui a été lancé plutôt dans les pays en voie de développement pour les possibilités de développement macroéconomique. On se demande justement est-ce qu'ils n'investissent pas suffisamment dans la santé. Mais on peut très bien poser la question aussi pour l'Union européenne. Et la Commission de l'Union européenne a donc lancé justement une étude sur la recherche, sur la contribution des soins de santé, des systèmes de santé, donc pour améliorer la productivité. Et là, nous en sommes encore au premier balbutiement en ce qui concerne le niveau empirique. Nous avons ici un calcul grossier pour les premiers pays, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, la Suède. Et on regarde donc, la santé s'est améliorée au cours des 10 dernières années. De combien sommes-nous plus sains? De combien a augmenté le produit intérieur brut? Combien avons-nous dépensé pour la santé? Quel est le retour sur investissement pour les dépenses de santé? Quel est le plus que nous avons en productivité grâce à l'argent engagé? Et là, nous constatons que nous avons des chiffres très positifs dans l'ensemble de ces pays. Pour chaque euro investi dans les soins de santé, on a un retour plus important parce que la productivité dans ces pays augmente. Le retour sur investissement peut varier. Donc, en France, seulement 47%, donc entre guillemets, 47 centimes d'euros pour un euro engagé, mais regardez les autres chiffres dans les autres pays. Eh bien, nous en arrivons maintenant donc à mon dernier transparent. Et là, je me dis que nous devons regarder les choses de manière tout à fait différente. Normalement, on regarde donc en bas le pourcentage du produit intérieur brut. On disait, bon, c'est l'Allemagne qui dépense le plus au sein de l'Union européenne. On voit ici la France, vous voyez, la Grèce à 10%. Bon, et normalement, on a toujours tendance à considérer ces dépenses comme des dépenses de consommation en disant « Oh, 11% dépensés pour la santé, ce sont 11% avec lesquels on ne peut plus rien faire d'autre. » Mais voyons ce que nous en tirons autrement comme profit. Eh bien, nous avons donc la longévité, par exemple. J'ai établi le lien entre dépenses, la part du produit intérieur brut et donc la longévité, 75, 80 ans, etc. Et vous voyez qu'on peut très bien établir la corrélation. Nous avons mis ici les pays qui étaient sur le dernier transparent, tous ces pays qui sont au-dessus de la moyenne, très nettement. Il faut le dire quand même, l'Espagne, vraiment, qui a une augmentation de la durée de vie très importante. L'Allemagne, nous sommes moins bons, nous devrions avoir une espérance de vie plus élevée. Mais le dernier point, dans l'Union européenne, nous avons des pays qui dépensent très peu pour la santé et qui ont une espérance de vie inférieure. Alors là, la question est de savoir, pour ces pays qui ont des revenus moyens ou faibles, est-ce qu'ils ne devraient pas dépenser davantage? On se regarde toujours, nous, les pays ici en haut, mais au sein de l'Union européenne avec ses 27 pays, il faudrait regarder justement si ces pays-là ne doivent pas dépenser davantage. Et on constate que ce sont en même temps les pays où les délais d'attente pour l'accès aux soins sont les plus longs, où l'accès est le moins garanti, etc. Donc, il faut vraiment établir ce lien entre les dépenses de santé et donc la santé elle-même et la productivité. Je vous remercie.